réussite éducative sur RCN, animé par le clown Chamallow et David Richard.
Eh bien oui, encore réussite éducative, et oui, deux semaines de suite. Ah oui, on en redemande, on en revoulait, on l'a redemandé, et il est revenu! Il est revenu, chers auditeurs, voilà, réussite éducative, la deuxième émission d'affilée. La semaine prochaine, vous retrouverez la vie associative, bien sûr, et c'est comme ça que ça fonctionne, et ça fonctionne très bien cette saison, c'est bien. Qu'est-ce que t'en penses, David?
Oui, je reviens toujours.
Il revient toujours sur les lieux du crime. Et l'émission de la semaine dernière, eh ben c'est magique. Vous savez que les rediffusions du jeudi, c'est les rediffusions à 16h de l'émission de la semaine d'avant. Voilà, c'est un concept que nous avons développé sur RCN qui me fait toujours un peu, qui m'amuse quand j'écoute les émissions. Parce que souvent, j'ai des émissions en doublon, tu sais, dans Vie associative. Parfois, j'ai une semaine avec des invités et la suite, c'est la semaine d'après. Il y a une continuité. D'ailleurs, je sais qu'aujourd'hui, toi-même, tu trouves une forme de logique dans le thème d'aujourd'hui. Et tu as dit tout à l'heure en antenne, c'est le prolongement, en quelque sorte. En quelque sorte, bien sûr, mais il y a une sorte de, tu m'as dit, il y a un lien. Et donc, ça m'amuse toujours quand j'écoute l'émission du mercredi et que le lendemain, à 16h, j'écoute l'émission qui est en vérité l'émission de la semaine d'avant, qui du coup aurait collé si on l'avait écouté avant, mais en l'écoutant après, des fois, c'est très curieux. Donc, c'est un concept que nous avons développé. Souvent, on peut soit écouter dans l'ordre ou alors mettre le puzzle dans le désordre. Et c'est, des fois, c'est amusant. Mais ça ne concerne pas une de nos invitées que nous avons aujourd'hui, puisqu'elle a une chronique toujours très bien construite, écrite, dite, structurée, et qui peut s'écouter eh bien, avant, après, pendant chaque émission. Donc il n'y a pas de souci. Ça va, Claire ?
Ça va, je te remercie.
D'habitude, en réussite éducative, ce n'est pas du tout moi qui fais le tour de table, c'est David. Mais en fait, comme on se connaît bien et que tu viens depuis toujours, voilà, que tu as les clés du studio, je ne sais pas pourquoi instinctivement, je voulais te saluer à l'antenne. Désolé, j'ai sûrement perturbé le tour de table qu'avait prévu David. J'en suis désolé. Tu m'en veux pas, David ?
Ah non, j'en veux pas, je suis extrêmement perturbé. Tu sais, là, je me sens extrêmement mal.
De toute façon, depuis la semaine dernière... depuis la semaine dernière, en début d'émission, et ben tu peux m'en vouloir de rien, parce que tu dois te faire pardonner. C'est pour ça qu'on va écouter 5 Adamo aujourd'hui. Donc oui, réussite éducative, chers auditeurs, n'hésitez pas, donc pas seulement le jeudi à 16h, mais sinon en podcast, l'émission de la semaine dernière était vraiment très très bien. La preuve, c'est qu'il y a d'ailleurs une invitée de la semaine dernière qui est restée. Moi, bon, je pense qu'elle est un peu contrainte et forcée, mais bon, elle est toujours là. Ça va, Maëva ?
Ça va, oui.
Je m'amuse à lui détruire totalement son tour de table. Ça va bien ?
Oui.
Et alors, redis voir quand même, parce que comme je lui détruis son tour de table, quel est le lien tu fais avec le rigolo qui est à ma gauche, avec David ?
Je suis éducative. Stagiaire éducatrice spécialisée en dernière année de formation.
Super. Et t'adores la radio apparemment.
Ouais, j'adore.
Parce que là, tu reviens, toi aussi, sur les lieux du crime. Voilà, donc réussite éducative, j'ai tout de suite donné la parole pour son teasing à David, bien sûr. Et en fin d'émission, je m'amuse à dire ça, parce que la semaine dernière, j'ai pas du tout fait comme ça, bien que je l'avais annoncé. Je vous redonnerai quelques informations quand même en fin d'émission. Une sorte d'annonce sur la vie associative la semaine prochaine, sur les actions à venir et surtout sur le Téléthon, chers auditeurs. Téléthon s'est lancé, c'est un de nos fils rouges. Et j'essaierai de redonner, comme la semaine dernière, eh bien, l'adresse pour aller sur notre page de collecte de l'association Les Petites Grandes Âmes et des actions de votre serviteur qui auront lieu octobre, novembre, décembre, janvier. La page de collecte est ouverte jusqu'au 31 janvier. Je parle avec Clément à la radio, c'est un concept aussi. Et du coup, je vous dirai tout ça en fin d'émission, de toutes les manifestations qu'on va mettre en place et qui, tout ça, auront lieu sous une page de collecte sur la Force T. Force T, c'est le site du Téléthon. Arrête de rire, Maëva, parce que...
Attention, arrête surtout de taper comme ça, parce que...
Et encore, je tape pas sur la table parce que ça énerve Jean-Luc. On remercie bien sûr Jean-Luc, le technicien. On les salue. Il est là, il est toujours là, même quand il n'y a pas Adamo, qui prouve sa motivation. Et donc, ça sera en fin d'émission, les infos, vie associative et les petites grandes âmes. Mais tout de suite, sans plus tarder, le célèbre tour de table raté de David, ça va?
Bah non. Ça va très... enfin non, du coup ça va pas.
Donc teasing quand même.
Pas du tout.
Ouais, il reste du café. Oui, vas-y.
J'existe. Oui, donc effectivement, tu as présenté Claire, je n'en parle pas plus, qui nous fera une chronique qui permettra en partie d'introduire le sujet d'aujourd'hui, qui prolonge un petit peu la discussion qu'on a eue la semaine dernière autour des réseaux sociaux. Donc sur le harcèlement, le côté sombre des réseaux sociaux nous amène à cette question-là. Sachant que le harcèlement, qu'on ne nommait pas comme ça à l'époque, existait déjà largement avant les réseaux sociaux. Je voulais faire juste un petit point d'actualité encore sur le dispositif de réussite éducative, parce que la semaine dernière j'ai cité beaucoup de choses, mais j'ai oublié un truc essentiel. On travaille les trois DRE du plateau, DRE de Nancy, DRE de l'Axou et mon DRE. On travaille sur, avec le collège La Fontaine sur la journée prolongée dont j'ai déjà parlé. J'en parle tous les ans parce que moi c'est une forme que je défends bec et ongle, parce que je la trouve extrêmement intéressante pour tout le monde. Et d'un point de vue éducatif, c'est vraiment un truc absolument, enfin c'est vraiment très bien. Donc voilà, je la défendrai jusqu'à la fin des temps. Et en fait, la journée prolongée, ça consiste à recevoir un groupe de collégiens, donc une vingtaine de collégiens. C'est d'ailleurs sûrement ma seule action comme ça où il y a un groupe relativement important. Mais sachant qu'on est énormément de partenaires dans la boucle, du coup, on garde quand même un vrai suivi individuel avec les jeunes. Ces collégiens sont des 6e et des 5e, qui sont repérés autant par l'établissement que par les différents DRE. Ça, c'est intéressant déjà. Les entrées ne sont pas les mêmes et les points de vue ne sont pas les mêmes. Donc un mélange d'élèves de l'AXOU, Nancy, Maxéville. Et on les reçoit tous les jeudis en période scolaire. Donc ça fait plein de jeudis à passer ensemble. C'est un groupe qui est fixe. On les a sur une forme. Donc cette année, on a réadapté les choses. Si vous réécoutez une émission d'il y a 3 ans, vous verrez que la journée prolongée était totalement différente il y a 3 ans. On s'adapte à chaque fois en fonction de, des bilans qu'on fait et puis des erreurs qu'on a pu faire, de comment on adapte les choses. Et donc cette année, les jeunes arrivent pour 16h30 sur un temps de devoir fait, comme on dit dans les collèges. Alors c'est pas du vrai devoir fait comme dans les collèges, parce que nous, on était très d'accord, et là je remercie mais tellement donc Patricia Cusocréa, la principale adjointe du collège La Fontaine, c'est super de pouvoir bosser avec des gens de l'éducation nationale qui sont en mesure de dire, quand on arrive à la journée prolongée, même si on est dans le bâtiment collège, le collège c'est fini, on est à la journée prolongée. Et ben ça c'est extrêmement chouette, parce que ça permet effectivement de passer ce relais un petit peu à tous les partenaires qui sont là, et de se dire, voilà, même si on est dans un bâtiment de l'éducation nationale, même si on est avec des personnels de l'éducation nationale, on est dans un autre temps. Et ça permet de mettre en place une ambiance et une relation éducative qui est plus la même. Et je pense que même pour les personnels de l'éducation nationale, c'est très bien pour eux aussi, parce que ça leur permet d'avoir des contacts avec les jeunes dans des contextes qui sont différents. Donc on les reçoit à 16h30, on les reçoit sur un lieu du collège en fait où il y a trois salles. Il y a une grande salle de permanence, il y a une petite salle à côté vitrée, ce qui fait qu'on n'est pas non plus absent, on est toujours avec les autres, on se voit, mais on peut aller se mettre un petit peu dans la petite salle tranquille pour discuter, qui va être un petit lieu de discussion. Puis on a la salle informatique à côté qui techniquement est super utile pour le travail des élèves. On sera 4 adultes au moins à chaque session. Régulièrement, je pense qu'on sera plus. Et le principe, c'est de pouvoir être là quasi individuellement pour chaque jeune, tout en restant dans un groupe. Là, on est en plein dans le DRE. Et de travailler effectivement sur des questions, sur du scolaire, sur des devoirs qu'ils auraient à faire, etc. Mais aussi de prolonger pour ceux qui le veulent, qui le souhaitent, qui sont d'humeur à discuter. Je prends un exemple. Emilio, d'ailleurs, qui était venu ici faire une chronique sur, mm-hmm. sur le jeu Fortnite, c'était avec lui que ça s'était produit, ça. Il avait des villes d'Espagne à placer sur une carte. Donc, on avait fait ce travail-là. Et en fait, derrière, on en était venu à parler de l'Espagne, parce que il se trouve que j'étais en Espagne plusieurs fois, et donc du coup on a commencé à en discuter, et il y avait eu toute une conversation avec beaucoup de curiosité de sa part, et il y en avait d'autres qui nous avaient rejoints sur effectivement qu'est-ce que c'est que l'Espagne, comment c'est l'Espagne. Et en fait l'idée c'est vraiment ça, c'est de partir des notions scolaires dans lesquelles ils sont, pour pouvoir après partir sur de la conversation, sur de la découverte, sur de l'échange, mais à partir effectivement des éléments scolaires qui peuvent nous amener. Ça, je trouve ça super. Sur ce temps-là, donc on est effectivement, alors là, Selon les jeudis, on ne sera pas toujours les mêmes personnes, mais l'idée c'est qu'on va tourner entre DRE, personnel du collège évidemment. Je remercie aussi Madame Cécile Chaumont qui est professeure référente second degré, avec qui on fait, enfin c'est pareil, c'est tous des gens avec qui c'est extrêmement agréable de travailler. La prévention spécialisée avec Jeunes et Cités, ce qu'on présente très régulièrement. La prévention spécialisée du plateau de haies, l'équipe publique sera aussi présente à certains moments. Et pareil, moi du côté de l'AXOU, on a effectivement Hassan Haral qui est là quasiment à chaque fois, et pareil, c'est chouette d'avoir des gens de toutes les villes en fait, qui se retrouvent avec des jeunes eux-mêmes des trois villes. Et on a aussi Didier qui est médiateur chez nous sur Maxéville, qui sera présent a priori un certain nombre de fois. Donc ça fait plein de gens très différents, parce qu'on a tous des formations super différentes, des postes très différents, des rôles très différents, on a aussi des relations tous très différentes avec les jeunes. Et le fait qu'ils nous voient tous ensemble, au même endroit, être présents pour eux, je pense que ça peut être que extrêmement bénéfique. Après ça, ils partent dans des activités. Donc on va être sur des activités culturelles et sportives. On va être sur un mélange des deux. Et puis il y aura ils partent à 18h45, donc ça nous fait quand même passer un bon moment ensemble. Et il y aura des séances particulières, et ça c'est, j'y tiens mordicus, ce que j'appelle les séances assemblée générale, c'est-à-dire qu'on l'idée c'est d'inviter les intervenants, les parents, les jeunes à une assemblée générale, de leur apprendre ce que c'est qu'une assemblée générale, de comment on prend des décisions ensemble, que leur voix compte. En fait, elle compte au même titre que celle d'un adulte qui serait présent et qui interviendrait. Et que ça c'est ce qui s'est passé l'année dernière, on avait déjà mis ça en place, et qu'en fait quand ils vont pointer une difficulté dans un atelier, dans quelque chose, en fait leur voix est entendue, et ça a des conséquences puisque on va décider de choses collectivement. Et je trouve que c'est quand même dans le contexte en plus dans lequel on est en ce moment là, je trouve que c'est intéressant cette idée de dire qu'on peut tous se mettre autour d'une table, discuter d'un problème et essayer de trouver des solutions ensemble en s'écoutant les uns les autres. Et puis qu'est-ce que c'est qu'un compromis, hein ? C'est là aussi qu'on apprend l'art du compromis qui fait qu'on peut vivre ensemble. Donc moi je trouve que c'est important, on va le renforcer. Puis le fait que les parents soient présents, que les parents voient leurs enfants aussi dans cette posture là, je trouve ça intéressant. Puis voilà, on aura aussi des séances de découverte un peu particulières, de découverte de sport un peu inhabituel, on va dire, pareil, où les parents seront conviés. Et c'est toujours fait dans un esprit où, parce que tout le monde n'aime pas le sport en fait, on a le droit de pas aimer le sport, donc on va jamais obliger quelqu'un. On l'avait vu sur des séances sportives l'année dernière, on en avait toujours deux ou trois, hein. C'est peu hein, finalement, mais c'est deux ou trois, on voit vraiment que aller faire deux heures de sport, c'est pas... Ça va pas parce que on va pas avoir envie, parce qu'on va être complexé, parce qu'on n'est pas à l'aise avec le groupe dans un contexte comme celui-là, etc. etc. Donc du coup, on prévoit effectivement qu'ils peuvent rester sur le côté. Alors l'idée, c'est quand même qu'on reste tous ensemble. C'est clairement ça l'idée. Mais que si effectivement, il y a trois personnes qui veulent faire des jeux de société avec leurs parents, puisqu'on fait venir les parents sur ces séances-là aussi, bah, ils puissent le faire. Et assister malgré tout à ce que font les autres et pouvoir après avoir un regard dessus, avoir un commentaire, avoir été présent et avoir vécu finalement la même chose que tout le monde, mais peut-être avec une pratique un petit peu différente. Donc voilà un petit peu globalement la philosophie. Puis après, nous, en termes de relations éducatives et surtout dans le suivi individuel qu'on a en parallèle avec les jeunes pour les DRE, c'est sûr que c'est extrêmement intéressant de pouvoir les voir tous les jeudis et de travailler la vie du groupe, parce que moi, c'est un peu l'idée qu'on part tous dans une aventure ensemble et qu'on va essayer de mener notre barque au mieux tous ensemble. Voilà.
Non, mais on y avait été, tu te souviens, pour la radio, pour RCN, on avait été un jeudi, justement, avec nos petits enregistreurs, ce jour-là, qui avaient des piles. Et du coup, non, mais c'était un bon moment, hein, d'autant plus que, voilà, par rapport à mon parcours, voir que La Fontaine pouvait justement avoir un prolongement autre que celui dont on parlait dans l'émission de la semaine dernière, qui était la difficulté des fois à sortir du lycée, à la confrontation aux autres, etc. Mais un prolongement qui à la fois est intramuros et en même temps une ouverture sur l'extérieur, comme tu disais tout à l'heure, hors cadre. Je pense que c'est des magnifiques idées, encore une fois, liées à ton dispositif, et ça c'est très important.
Et signalons d'ailleurs que du coup RCN est impliqué dans l'histoire, puisque parmi les activités culturelles que les jeunes vont avoir, il y a la radio, donc... Les groupes tourneront, hein, mais quand ce sera à radio, les groupes viendront ici dans les studios pour apprendre un petit peu à parler dans un micro, pour faire simple. Voilà. Donc je suis fervent partisan de ça. Et au-delà de ça, ça permet aussi de filer un coup de main, et ça va peut-être faire un petit lien avec la suite de l'émission. Mais on a effectivement des gamins qui arrivent en sixième, qui n'étaient pas forcément sur le secteur géographiquement, pour qui l'arrivée est vraiment difficile. Et l'idée, c'est que si on les mélange avec tous les autres sixièmes, tous les autres cinquièmes, dans un cadre où il y a beaucoup d'adultes pour encadrer, et où l'idée, c'est que, enfin moi je le dis explicitement aux jeunes, hein, c'est l'objectif, c'est que chacun soit en sécurité dans le groupe. Et se sentent en sécurité, et se sentent légitimes. Après, on a le droit de ne pas s'aimer, on a le droit de... On peut s'ignorer, on peut même s'éviter si on veut, mais il faut se sentir... Alors si on s'évite, non, c'est qu'on ne se sent pas en sécurité, d'ailleurs, je reviens sur ce que je dis. Mais en tout cas, on peut au mieux s'ignorer si on ne s'entend pas. Mais tout le monde doit pouvoir se sentir en sécurité avec ce qu'il est. Une personne extrêmement bavarde, une personne très extravertie, une personne qui a besoin de bouger, une personne qui est très renfermée. Je veux que tous ces gens-là puissent être ensemble et se sentir bien, finalement, et avoir chacun une place. Voilà, c'est un peu ce que j'essaye de... Enfin, ce que j'essaye, pas que moi, hein, ce que moi et tous les gens qui sont là, on essaye de leur apprendre.
Et vous le faites fort bien. Bravo.
C'est chouette. On verra à la fin.
J'allais faire une parenthèse sur ton histoire de n'a le droit de pas aimer le sport. Je te rejoins, de toute façon, on a le droit d'aimer tout et on a le droit de ne pas aimer tout ce qu'on voit là. Mais développons, n'oublions pas quand même l'importance, hein, de la pratique physique,
sûr,
on va dire.
Sûr,
parce que sportif,
sûr,
c'est autre chose. Et en plus, les exemples que tu as donnés sont très justes. C'est-à-dire, le sport en collectivité, ça implique tellement de choses, hein, le regard des autres, etc., le regard qu'on a de soi sur soi,
voilà,
etc. etc. Donc ça, c'est vrai. Mais par d'autres biais, hein, voilà, développons, parce que je sens qu'il y a une petite perdition là-dessus, comme l'importance pour nous, hein, même pour notre esprit aussi,
bien entendu,
que la pratique physique, on va dire, pas forcément sportive, avec ce qu'implique le mot sport, mais au moins physique.
L'année dernière, en fait, il y a eu un développement, moi, que j'ai adoré. Quand on était sur ces séances sportives, bah, effectivement, quand il faut composer une équipe, bah, c'est toujours un moment redoutable pour pas mal de gens, parce qu'on sait qui va être choisi en premier, on sait qui va être choisi en dernier, et c'est quelque chose que je trouve pas forcément simple à vivre. Ça peut même être très compliqué à vivre. Et c'est vrai qu'en début d'année, on avait effectivement des compositions d'équipe qu'on devait, on devait réguler en permanence, parce que il y avait ce phénomène qui se mettait en place tout de suite. Et la dernière séquence qu'on a faite à la fin de l'année, je me souviens d'un des deux capitaines, entre guillemets, Alan, qui était venu ici aussi à la radio, qui revient cette année, si je le salue si jamais il nous entend, parce qu'il fait partie, comme tous les autres jeunes de ce groupe-là, c'est quelqu'un que je trouve très chouette. Et c'était bien parce que quand il appelait quelqu'un, à chaque fois que la personne arrivait dans son groupe, il lui mettait la main sur l'épaule et il la guidait, entre guillemets, vers l'équipe. Et ça, j'ai trouvé ça... super chouette, parce qu'on était passé de on appelle des gens, on ricane un peu parce que machin, à toi tu viens dans mon équipe. Et en fait, comme nous on fait un peu de régulation quand même autour, et donc il appelait pas forcément les gens qu'intuitivement il aurait appelé en premier, systématiquement, même avec des personnes dont on sait qu'elles sont moins performantes en fait sur du sport, hein, c'est vraiment ça, on va pas se mentir, et c'est ça d'ailleurs qui pose problème. Et ben en fait il l'a fait à tout le monde, et ça, moi je dis bravo, bravo. Alors je sais pas si c'est grâce à nous, si c'est lui qui a évolué dans l'année tout seul comme un grand, sans notre action. Mais en tout cas, quand on voit ce genre d'évolution, moi je trouve, moi je dis fameux.
Mais tu sais, hein, c'est marrant, mais cette situation, ce contexte, il faudrait le revoir d'ailleurs, rejoint totalement du choix. Tu sais, quand les enfants, et en plus c'est extrêmement douloureux quand t'as 6, 7, 8 ans, et que tu sais que tu vas pas être appelé en premier, que t'es en attente, une frustration, puis qu'après t'es en dernier. C'est, enfin voilà, moi c'est toujours une très grande douleur quand je pense soit à ma princesse, soit du coup en élargissement aux enfants en général, de ce qu'ils peuvent ressentir. C'est pas son nom qui vient, c'est encore pas son nom, etc. Ils vont pas du bon côté avec les bonnes copines, les bons copains. Et ben finalement, ce contexte-là qui est ancestral, finalement, cette manière de faire, mais qu'il faudrait revoir, essayer de trouver d'autres techniques quand il y a des adultes qui gèrent la situation, ça rejoint totalement l'émission de la semaine dernière. Tu sais, quand on parlait des réseaux sociaux la semaine dernière, et des fois l'attente qu'elle a leur, parfois je trouve complètement surréaliste, l'attente de je suis aimé, je suis pas aimé, j'en suis où, etc., etc., et qui créent une frustration et qui vont faciliter ce qu'on va aborder aujourd'hui. On en parlait la semaine dernière avec Maëva, créer vraiment un terreau facilitateur après au harcèlement, parce qu'ils sont tellement sensibles au regard des autres. Là. Et bien finalement, c'est déjà dans ce contexte-là de choix, pas choix, choisi, pas choisi, aimé, pas aimé. Voilà. En finalement, on a là, au niveau psychologique, ce dont on parlait la semaine dernière, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Est-ce que je suis appelé? Est-ce que je suis pas appelé? Est-ce que c'est moi qui suis... Voilà. Finalement, c'est le même mécanisme. Et il faudrait qu'on, nous les adultes, de plus en plus dans certains contextes, eh bien qu'on brise cette attente qui est des fois douloureuse de aimer, pas aimer, pris, pas pris, choisi, pas choisi. Si on pouvait briser ça, finalement on le briserait peut-être aussi après, quand ils sont sur les téléphones en train de dire aimer, pas aimer, liker, pas liker. Finalement, je me rends compte que c'est le même processus, que ce soit dans une cour en attendant d'être désigné par un doigt, ou en attendant de voir que s'il a été liké ou machin sur un site, c'est le même processus de l'attente affective et de la capacité qu'on a tous finalement de dire non, pas toi, et la souffrance que ça peut engendrer juste de dire pas aimé, pas aimé, pas liké, pas machin, pas choisi. Et finalement, si on voulait tous à un moment donné prendre en considération ce que ressent l'autre quand on le pointe du doigt négativement, ou quand on le choisit pas, si on écoutait un peu plus l'autre, finalement. Mais c'est le même processus.
Soit dit en passant, sur les réseaux, c'est un débat qui revient souvent, ça. On a la possibilité de liker, donc de signaler qu'on a aimé une publication, mais on n'a pas la possibilité de dire qu'on n'a pas aimé.
Mais parfois, c'est un moment.
Mais ça se fait en creux. Voilà, ça se fait tout à fait. Ça se fait malgré tout en creux. Et voilà. Donc pour terminer là-dessus, et puis après, on enchaînera. De la même manière, l'année dernière, on avait fait une sortie de fin d'année à Fort Aventure. Donc, c'est une structure qui est à Pont-Saint-Vincent. D'ailleurs, c'est même pas Pont-Saint-Vincent, c'est la commune derrière. Mais bref, sur le plateau au-dessus de Pont-Saint-Vincent, au Fort Pélissier. Et donc, on était sur un mode un petit peu Fort Boyard, avec deux équipes, avec des épreuves, etc. Et j'étais super content parce qu'il y avait un jeune qui était pas très populaire et pas très apprécié globalement de ses camarades, pour plein de raisons. Et en fait, il s'est trouvé que sur une épreuve assez physique, il a fallu le choisir. Enfin, c'est moi qui ai insisté, j'ai dit il n'est pas passé, donc il va faire aussi. Et donc il a été faire. Et puis alors, tous les un peu costauds de l'équipe, ils étaient un peu là. Et en fait, il a assuré de manière totalement incroyable. Et quand à un moment après, on s'est retrouvé en compétition, parce qu'après, on a tous une approche différente de ça. Et moi, je sais que dans le cadre du jeu, j'adore jouer la compétition à fond avec mon équipe. On est une équipe et tout, machin, etc. Et pouvoir montrer qu'à la seconde où le jeu s'arrête, qu'on ait gagné ou perdu, pouf, on en sort immédiatement. Et c'est fini. Et on passe à, on félicite ceux qui ont gagné, ou on est content d'avoir gagné, ou on va aller rassurer ceux qui sont un peu tristes, etc. Mais vraiment de se dire, voilà, le jeu est terminé, l'arbitre a sifflé la fin, ok, c'est fini. On sort de ça, on revient entre guillemets dans la vraie vie, où la compétition, à mon avis, pose problème. C'est pour ça que dans le cadre du jeu, qui est un espace un peu fictif, finalement, un peu virtuel, je trouve que c'est intéressant de la développer et puis de montrer qu'on peut la casser et que c'est pas du tout un mode de vie, que c'est juste, enfin bon, ça c'est un point de vue un peu perso là-dessus. Et c'était marrant parce qu'on s'est retrouvé à un moment effectivement sur une égalité avec un point qui était vraiment extrêmement déterminant, et quand il a fallu choisir qui allait passer l'épreuve, et ben les costauds qui n'aimaient pas trop ce gars-là, à un moment ils en sont venus eux-mêmes à se dire: si on veut gagner, faut qu'on lui demande à lui quand même, parce que franchement, il assure beaucoup plus que ce qu'on croyait. Ils lui ont demandé. Bon, après, on a tous fini en égalité, d'ailleurs, le jour-là. Mais j'ai trouvé ça chouette à un moment, parce qu'ils ont le regard sur lui a changé d'une certaine manière, et ça a vraiment apporté quelque chose d'intéressant. Et puis cette idée que, voilà, il y a eu des épreuves où il y avait des jeunes qui étaient très en difficulté sur des épreuves qui ont été autour de la rapidité et de l'habileté, on va dire. Et j'étais content parce qu'en fin de journée, on avait vraiment l'équipe qui faisait bloc et qui soutenait la personne qui était, je me souviens d'une jeune fille comme ça qui est très paniquée, très stressée, qui est très inquiète, qui est très, très, très réservée également, et qui a vraiment perdu ses moyens à un moment. Et j'ai trouvé ça chouette que toute l'équipe, garçons y compris, garçons un petit peu costauds, un petit peu macho aussi, y compris, soit là pour la soutenir et lui vraiment pousser pour qu'elle avance. Et moi, c'est vraiment ce genre de résultat que je cherche à avoir, et j'ai trouvé ça chouette. Et du coup, je vais enchaîner parce qu'il passe un petit peu de temps, à moins que t'aies...
Non, tout va bien.
Remarque, bah écoute, tout ça, ça pose la question un petit peu de ce que c'est que d'être populaire. C'est aussi lié aux questions de harcèlement telles qu'on les définit aujourd'hui. Il y a un groupe fort connu qui a écrit une chanson à ce propos dans les années 1990.
Only makes it worse. Tell him honestly, simply, kindly, but firmly. Don't make a big production. Don't make up an elaborate story. This will help you avoid a big tear-jerking scene. If you want to date other people, say so. Be prepared for the boy to feel hurt and rejected. Even if you've gone together for only a short time and haven't been too serious, there's still a feeling of rejection when someone says she prefers the company of others to your exclusive company. But if you're honest and direct and avoid making a flowery emotional speech when you break the news, the boy will respect you for your frankness, and honestly, appreciate the kind, straightforward manner in which you told him your decision. Unless he's a real jerk or a crybaby, you remain friends. Catch the biggest fish in your pond. You have to be as attractive as possible. Make sure to keep your hair spotless and clean. Wash it at least every 2 weeks. Once every 2 weeks. And if you see Johnny Football Hero in the hall, tell him he played a great game. Tell him you liked his article in the newspaper.
I'm the party star. I'm popular. I got my own car. I'm popular. I'll never get caught. I'm popular.
I propose we support a one-month limit on going steady. I think it would keep people more able to deal with weird situations and get to know more people. I think if you're ready to go out with Johnny, now's the time to tell him about your one-month limit. He won't mind, he'll appreciate your fresh look on dating. And once you've dated someone else, you can date him again. I'm sure he'll like it, everyone will appreciate it. You're so novel, what a good idea. You can keep your time to yourself, you don't need date insurance. You can go out with whoever you want to. Every boy in the whole world can be yours if you'll just listen to my plan. The teenage guide to popularity.
I'm never a class. I'm popular. I'm a quarterback. I'm popular. My mom says I'm a catch.
Réussite éducative sur RCN.
Les enfants de la télé. Téléphone, télévision, tablette, ordinateur, console de jeu. Des mots qui résonnent aux oreilles de chacun. Et pour cause, chaque foyer français possède en moyenne 5 à 6 écrans. Il faut bien s'occuper, pourriez-vous me rétorquer. Mais les chiffres sont assez édifiants. Une nouvelle étude menée par l'INSEE, parue le 22 novembre 2022, montre que les enfants de moins de 5 ans utilisent les écrans, parfois même avant de savoir parler. Certains ne pourront plus s'en passer. Pourtant, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik est catégorique. Pas d'écran avant 3 ans. Il est, comme vous le savez, loin d'être le seul à tenir ce discours. Pour cette chronique, mon intention n'est pas de vous faire peur, mais bien de vous alerter sur les conséquences d'une exposition aux écrans trop précoce et ou intensive. De 0 à 3 ans, le bébé a besoin de développer ses sens et surtout d'interaction. Pour apprendre un nouveau mot, il a besoin de toucher, de sentir, de porter ou même de faire tomber l'objet pour savoir ce que c'est. J'en veux pour preuve cette expérience réalisée avec des enfants américains. Ils ont été exposés au mandarin durant des sessions animées par une chinoise qui leur parle directement et distinctement. Les petits soumis à l'expérience montrent une capacité de reconnaissance presque équivalente aux bébés de familles bilingues anglais-mandarin de Taïwan. Mais si l'on réitère l'expérience en exposant cette fois les bébés au mandarin via une télévision ou un ours en peluche qui parle, les résultats sont sans appel. Cela n'a aucun effet. L'apprentissage est donc social. Le bébé a besoin d'être regardé, encouragé. Il a besoin de nous pour apprendre, pour avoir envie d'apprendre. Et je me permets de vous rappeler que nous nous devons d'être un modèle.
Écran, rendez-nous nos parents. Lâchez-leur la pomme, merci, ça nous fera des vacances. Écran, débranchez nos parents. Coupez-leur donc le wifi, on fera connaissance.
Oui, afin que l'enfant ait un usage sain des écrans, il est primordial que les adultes donnent l'exemple en les utilisant eux aussi avec modération. Vous comprendrez donc aisément qu'il est inutile d'installer votre choupinou devant Choupi in English in the text pour en faire un beau bilingue. Tout ce temps d'écran est du temps volé à la découverte du monde, le monde réel, en étant acteur et engagé. Oui, mais vous rentrez du travail, faut faire à manger, vous occuper du grand, de ses devoirs, c'est pas facile, c'est bien compréhensible. Alors vous lui proposez une vidéo sur votre portable ou un dessin animé à la télévision. Et s'il ne faisait rien? Le cerveau du petit homme se construit dans l'ennui, moment de rêverie qui développe l'imaginaire. De plus, n'oublions pas que pour un enfant, tout ce qu'il voit sur un écran est vrai. Il ne fait pas la différence entre ces images et la réalité. Il n'a pas non plus besoin d'être confronté à la violence des contenus de nos journaux télé. Et s'il vous fallait encore quelques raisons pour éteindre vos écrans, je vais vous parler du dessin animé du matin. Le cerveau de votre petit téléspectateur emmagasine des informations qui lui arrivent trop nombreuses et ne peuvent être traitées. 10 minutes de télé le matin avant de partir à l'école perturbent les apprentissages toute la matinée. C'est ainsi que l'on voit apparaître des troubles tels que la dysphasie, c'est-à-dire des troubles du langage, un manque de vocabulaire ou encore des bégaiements. Je vais aussi vous parler des jeux à l'extérieur qui se changent en temps devant un écran, avec des conséquences sur la santé comme le surpoids, les pertes de capacité cardiovasculaire ou bien encore des retards sur la motricité globale ou fine. Je vais vous parler de la photophobie ou, pour être plus clair, de la sensibilité excessive à la lumière et l'arrivée progressive de la myopie, car l'enfant n'exerce pas sa vision de loin, celle qui sert notamment pour regarder le tableau ou conduire une voiture. Je vais vous parler des troubles de la concentration, cognitifs, de la perturbation et du manque de sommeil. Bien sûr, nous vivons dans un monde connecté et il faut bien vivre avec son temps, me direz-vous. Alors si vous faites le choix d'autoriser l'accès aux écrans, je me permets de reprendre la devise des 4 pas de la psychologue Sabine Duflo. Pas le matin, vous savez maintenant pourquoi. Pas pendant les repas qui doivent rester un moment d'échange pour notamment stimuler le langage. Pas dans la chambre afin de pouvoir réguler le temps d'écran et accompagner l'enfant sur le choix des programmes, expliquer ce qu'il voit et réagir à ses émotions. Pas au moment du coucher, car la lumière bleue retarde l'entrée dans le sommeil. Les conséquences dramatiques chez les plus grands ne manquent pas non plus. Nous avons tous entendu parler du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, de ces ados victimes de dépression, de troubles du sommeil qui parfois même décident d'en finir. Les ados accros passent de nombreuses heures sur les différents écrans et leur cerveau en demande toujours plus. Apparaît alors l'addiction comportementale, c'est-à-dire sans substance. Des jeunes enfants peuvent aussi se trouver involontairement face à des contenus pornographiques dont le visionnage engendre des traumatismes. Et pour les adolescents qui décident de regarder régulièrement ces films, il est à craindre que les images tiennent lieu de modèle. Ils ont alors une représentation faussée de la sexualité. Il n'est pas question d'interdire formellement cette technologie qu'est Internet, excellent outil de recherche de l'information, ouverture sur le monde. Le contrôle parental peut alors être d'une grande aide. Je vous fais une petite devinette. Quel est le point commun entre Robert Oppenheimer et Geoffrey Hinton? Vous savez? Non,
non.
Alors, l'un étant le premier à avoir mis au point la bombe atomique et l'autre un docteur en intelligence artificielle. Ces recherches ont aidé à mettre au point ChatGPT. Leur invention a hanté et hante leur conscience en voyant ce qui en a été fait. D'ailleurs, Geoffrey Hinton a quitté Google en juin dernier. Pour finir, je vous laisse méditer sur les mots de George Orwell, 1984. Oui. Chaque génération se croit plus intelligente que la précédente et plus sage que la suivante.
Merci Claire, c'était donc Claire et sa chronique qui revient. Ça y est, c'était la première de
oui,
l'année.
Oui, la première de l'année.
Ça nous a manqué. Parce que moi, je dis toujours bravo. Parce que franchement, là, elle a dit des trucs mieux que ce que j'ai essayé d'expliquer la semaine dernière. Non mais là quand même, réécoutez l'émission la semaine dernière. Merci Claire.
Merci.
Voilà, merci. De regards j'ai lancé à Maëva pendant ta chronique, n'est-ce pas? Non mais c'est vrai, bravo, c'est bien. Par contre la question rhétorique que tu nous a posée, nous on croyait, je pense David aussi, que c'était une question totalement rhétorique, une question oratoire, du coup tu nous as perdu.
J'aurais
là.
Dû vous prévenir.
Parce que c'est
vrai.
La première fois
c'est
que
la
tu crées
que
dans une interaction. Non donc franchement, prochaine fois tu fais ce
tout
que
préviens.
David ne fait pas toujours, tu nous préviens quoi.
Ouais. Alors, surtout ne situez pas George Hinton, du tout quoi.
Ouais, ouais.
Non le premier oui mais pas le deuxième, non, j'avais pas non plus, j'avais le premier mais pas le deuxième. Et d'ailleurs ça m'a fait penser quand tu l'as dit, c'est l'inventeur du téléphone ou ceux qui vendent les téléphones là, les 15, 12,
oui,
22,
oui.
Hein, et ils disaient aussi qu'il les laisse pas à ses enfants non plus.
Non,
voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se poser la question si on n'est pas victime de personnes trop intelligentes, mais qui voilà, hein, qui sont peut-être plus intelligentes que nous.
Tous les grands patrons limitent l'accès à leurs enfants sur tous les réseaux sociaux, le téléphone. Bill Gates, c'était le cas.
Bah oui,
enfin, voilà.
Non, c'est vrai. Et puis rien ne vaut le contact. Être ensemble. Merci. Mais j'aime bien ta chronique.
Et lire avec les enfants.
Mmh. Ouais. Est-ce que c'est réac de dire des fois que... autant dire c'était mieux avant, c'est la phrase la plus débile que la Terre ait jamais portée. Mais est-ce que... Je pense à ce qu'on dit des fois de mes chansons que je dépasse. Le mec, il est complètement vexé à cause d'Adamo, tu vois. Mais mine de rien, est-ce qu'il ne faut pas avoir un esprit critique et se dire, bah, là, c'était mieux, là, c'est moins bien. Mais à force de vouloir toujours dire, c'est vrai ce que tu as dit à la fin, que dès qu'on dit que ça, c'était mieux avant, on passe pour un... Bah, est-ce que c'est si bien que ça? Est-ce qu'il ne faut pas finalement avoir un esprit critique et raisonner finalement et peser le pour et le contre tous les matins quand on se réveille? Parce qu'il y a quand même des trucs qui sont un peu négatifs dans l'évolution. Le monde n'est pas toujours un progrès positif, non?
Non, pas toujours.
Pas toujours.
Loin de là.
Ah bah, les choses sont à faire, à mon avis, au cas par cas.
Au cas par cas,
oui.
Avec raison.
Tout à fait,
quoi. D'où l'importance de développer l'esprit critique de nos
jeunes. Voilà.
Pour que même nous remettre en cause nous-mêmes, après tout. Et il y a besoin de nous remettre en cause aussi nous, hein, je pense. Merci beaucoup Claire de ton retour, tant annoncé.
Merci. Tant attendu.
Oui.
Il y avait une foule qui se massait devant la radio déjà depuis des semaines. Là,
c'est vrai.
Alors je plaisante, mais en vrai, c'est super chouette que tu sois revenu.
Ouais.
En plus, moi, ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est que je suis très globalement d'accord avec toi. Puis il y a des choses qui sont factuelles en plus, hein, donc on n'a pas. Voilà. Et puis, j'ai un positionnement qui est légèrement différent. Et du coup, c'est vachement intéressant parce que moi, ça me. Justement, c'est ce qu'on disait juste avant, en fait. Ça m'oblige aussi, moi, à réfléchir à des éléments de positionnement qui ne sont pas les mêmes et à me dire. Alors, et aller re-questionner. Après, je changerai d'avis ou pas, mais
c'est important.
Je trouve que c'est super important, ça, de se faire remettre en cause, ça fait du bien aussi.
Oui, parce que c'est vrai. Juste un truc, c'est parce que c'est vrai. Parce que, par contre, c'est important parce que moi, c'est vrai que j'arrête pas de dire, je la rejoins à 95%, mais je voudrais surtout pas donner l'impression c'est une ligne de conduite absolue au sens que l'éducation serait le fait d'appliquer des règles aussi claires que ça, parce que Dieu merci, parce que moi je la rejoins à 95%, et pourtant dans les choses qu'elle a dit tout à l'heure, il y a des choses que je n'applique pas. Alors malgré moi, ma conscience irait à l'encontre de ce que j'applique, et je me dis des fois oui, mais je pense notamment à la télé pendant les repas ou des choses comme ça de temps en temps, tout ça, mais et pourtant je te rejoins à 100% même pour le coup, et pourtant et je me dis tant mieux qu'on ait une ligne, qu'on ait les bonnes bases, et que de temps en temps on admette aussi que l'éducation de temps en temps il y a finalement c'est empirique quoi, non, c'est une application un peu personnelle, un peu, mais en ayant ça en ligne de mire, je suis d'accord avec toi, mais ne pas donner l'impression aux parents que s'ils s'écartent d'un dogme ou de règles, l'éducation c'est aussi souple, avec des erreurs qui sont à la fois des erreurs mais qui, parce qu'on les remet en cause ou parce qu'on les explique et qu'on dit là j'aurais dû faire comme ça, qu'on en parle avec ses enfants, parce qu'il y a rien de plus important je pense que dire à un enfant tu sais hier j'ai fait comme ça, ou là, j'avais ronchonné parce que j'étais fatigué, tout ça, puis on en discute, puis on s'excuse, puis machin, le fait d'avancer, alors que si on fait croire aux parents que c'est comme ça, il faut faire comme ça, c'est pas bon non plus je trouve, parce que déjà c'est anxiogène pour un parent.
Bien sûr.
Et puis ça voudrait dire qu'il faudrait une éducation formatée, et je pense que ça serait pas bon non plus, pourvu qu'on ait ce que tu dis en ligne de mire, mais qu'on, Dieu merci, qu'on l'atteigne pas au quotidien à 100% tout le temps, tous les jours, parce que ça ferait de nous des, un peu des robots quoi. Non.
Oui, puis il n'y a pas de méthode. Et c'est aussi pour ça que j'ai proposé les quatre pas. Parce que, évidemment, on vit dans un monde connecté. Les enfants sont confrontés aux écrans, mais même on va au supermarché, il y a des écrans. Partout. On va partout, il y a des écrans. Et évidemment, il va falloir aussi qu'ils sachent s'en servir, parce que c'est leur vie future. Mais évitons tout petit, parce que là, ça, c'est vraiment très délétère pour le cerveau. Voilà.
Plus que ça. Pardon, excuse-moi.
Non, je t'en prie.
Non, mais c'est pas un apprentissage qu'on fait effectivement à un an.
C'est ça.
Parce que ça demande quand même d'avoir quelques années derrière soi. Et moi, je trouve qu'il y a une vraie inégalité pour les parents là-dessus, parce qu'en fait, selon la pratique qu'on a nous-mêmes et selon la connaissance qu'on en a, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans une consommation passive ou est-ce qu'effectivement on aime bien fouiller, savoir comprendre comment les choses marchent, on n'a pas du tout la même... Après moi ça va être sur d'autres aspects, sûrement, mais sur cet aspect-là, moi je sais que j'ai tendance à me dire que les enfants, c'est bien s'ils arrivent un peu à dompter en fait l'outil à un moment donné, et qu'on peut leur donner de quoi dompter l'outil, savoir pourquoi ils l'utilisent, comprendre comment il fonctionne. Comprendre aussi les enjeux qu'il y a derrière, les enjeux économiques, les enjeux de civilisation, même en fait, quand on parlait de ChatGPT, finalement, c'est un petit peu ça qu'il y a derrière, et qu'après, puis ils puissent en avoir une utilisation qui est raisonnée. Alors, même si elle est intensive, même si c'est ce qu'on veut, mais en tout cas, qu'ils sachent exactement ce qu'ils ont entre les mains. Et effectivement, c'est pas un an qu'on apprend ça.
Non, c'est pas un an qu'on
subit,
apprend ça.
On subit.
Bien sûr.
Bon, on est sur deux émissions d'affilée là où on parle beaucoup à la fois d'écran, de réseaux sociaux et de harcèlement, et c'était un petit peu la thématique du jour. Ça fait partie de l'actualité, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Il y a effectivement des projets de loi là qui ont été annoncés au début de l'année scolaire. C'est quelque chose qui est pas nouveau. Moi j'avais un peu envie qu'on puisse en parler et que tout le monde puisse un peu intervenir là-dessus, puisque j'ai l'impression, toi je sais que, enfin voilà, tous on a eu des expériences, moi le premier, qui ont pu être, alors je sais pas, à divers degrés j'imagine, mais n'hésitez pas à intervenir sur le sujet. Je sais pas si c'est intéressant que je raconte un petit peu comment ça a été vécu moi de mon côté en tant que un des deux aînés de la
c'est bien.
Cette table, parce que c'est vrai que
le doyen,
moi je trouve que, enfin voilà, c'est comme ça que moi je l'ai vécu. C'est le fait d'avoir été finalement dans une école élémentaire, dans une classe de CM2 que j'ai énormément apprécié, qui était un groupe qui était extrêmement cohérent et plutôt pas mal bienveillant dans l'ensemble. Et le passage au collège, qui inquiète aussi beaucoup de parents et finalement d'enfants, hein, qui ne l'expriment pas toujours, mais qui inquiète beaucoup, a été un choc absolument incroyable, puisque j'ai découvert qu'on pouvait être avec des gens qui n'étaient pas forcément gentils. Ça a été ça. Et la découverte, elle a été extrêmement brutale, parce que quand on part de... Enfin, en tout cas, je vais parler pour mon cas. Quand moi, je suis parti de l'idée que, globalement, les gens sont bienveillants et globalement, il n'y a pas de raison que les gens soient malveillants à mon égard, du coup, on n'est pas du tout armé à faire face à ce qu'on rencontre. Et c'est vrai que ça a eu des impacts, en fait, effectivement, on est donc dans les années 80, à la fin des années 80, début années 90, et il n'y a pas de réseaux sociaux. N'empêche que effectivement on peut se retrouver d'un seul coup très isolé, très seul, et puis effectivement victime pour le coup de brimades, voire de violences physiques assez régulières. Et moi c'est ce qui m'est arrivé. Et c'est vrai qu'on peut voir, alors il y a d'autres facteurs autour, hein, familiaux, tout ce qu'on veut, mais on peut voir un niveau scolaire s'effondrer littéralement, puisque oui. Moi, j'étais plutôt bon élève au CM2, ça s'est effondré, surtout en 5e, quand j'ai compris que ça allait durer, surtout, parce qu'en fait au début on a aussi l'impression que c'est des événements isolés, et puis voilà, et en fait on se rend compte que ça dure et que ça nous concerne, on a le sentiment que ça ne concerne que nous, alors en réalité il y en a d'autres qui sont aussi concernés. Et moi ce que j'en ai retiré, c'est toujours un peu réinterprété parce que le temps a passé, mais j'ai le sentiment qu'à l'époque j'en avais aussi retiré de cette solitude que c'était bizarre que tous les gens qui étaient victimes de ça ne se mettent pas ensemble. Je me souviens que ça m'avait, et je pense que c'était lié à mon expérience de l'année précédente où j'étais dans un groupe très cohérent et où les gens se soutenaient, et je me suis dit c'est bizarre, ça fonctionne pas. Et en fait je pense que chacune des personnes qui étaient victimes de ça, alors soit de manière extrêmement répétée, soit plus ponctuellement, soit en passant d'un statut à l'autre, hein, d'agresseur et d'agressé, était tellement terrorisée dans son coin que de toute façon pour se rencontrer, pour se parler et pour avoir une action commune, bah en fait ça fonctionne vraiment, vraiment pas du tout. Et ça a été dur. Enfin moi, au-delà de l'effondrement du niveau scolaire, ça devait être vers la 5e, je pense, où effectivement on commence à se poser la question de est-ce que ça vaut bien la peine de vivre tout ça. C'est des trucs qui sont, enfin qu'on voit toujours aujourd'hui et qui existaient déjà. Et je pense qu'il y a il y a eu des suicides qui ont pu exister par le passé, qui sont peut-être passés plus inaperçus qu'aujourd'hui, parce que la médiatisation, parce qu'on a aussi pris conscience peut-être un peu plus du problème qui était lié à des choses comme ça. Et quand j'y repense, je me dis, j'ai mis 2 ans et demi à peu près à tirer la sonnette d'alarme. Alors j'avais essayé de tirer la sonnette d'alarme dans l'établissement scolaire, mais ça n'a pas bien marché. Et auprès de mes parents, moi j'ai mis 2 ans et demi à en parler. Et encore, j'en ai parlé de façon détournée, parce que j'étais parti dans un truc un peu délirant, expliquant que je pouvais pas aller à l'école, mais avec un truc de surnaturel et tout, et du coup je pouvais pas sortir de la maison, et voilà, on en arrive en fait à cette espèce. Et finalement quand mes parents ont compris qu'il y avait un problème, je leur avais même pas dit le problème, ils ont juste vu que je commençais à avoir des réactions qui étaient complètement un petit peu délirantes, alors que j'avais pas le sentiment d'être délirant d'ailleurs, mais je pense que j'arrivais pas à faire passer le message de manière complètement explicite. Et finalement ça s'est fait, et j'ai redoublé ma 4e, et j'ai changé d'établissement scolaire, et puis petit à petit j'ai remonté la pente, et puis ce que je disais toujours, j'ai énormément séché les cours au collège parce que j'étais extrêmement mal. Puis j'ai énormément séché les cours au lycée parce que je me sentais super bien. Et j'avais pas mal de... Enfin, un groupe de super bons copains qui sont toujours mes amis aujourd'hui, d'ailleurs, que je salue. Après avoir passé un week-end avec eux il y a une semaine. donc voilà, c'est...
À faire des jeux vidéo, je pense.
Pas du tout, on a passé 3 jours à marcher dans la montagne. Tu vois comme quoi je suis un énorme amateur de jeux vidéo et je passe beaucoup de temps devant les écrans. Et pourtant, je vais dormir dans la montagne. Voilà, c'est... je trouve que c'est un sujet qui est extrêmement important et effectivement qui est décuplé par les réseaux sociaux. Et moi je voulais savoir un petit peu quels avis vous avez ou quelles expériences vous souhaiteriez partager autour de ça. Donc que ce soit des témoignages, que ce soit effectivement des avis sur l'actualité, sur les projets de loi actuels, sur les choses, sur toutes ces choses-là, de vos côtés respectifs.
Moi je vais laisser parler les dames.
Qui prend la parole? Alors tout le monde s'est tourné vers Maëva.
Moi, je crois que j'ai pas le choix.
Si tu ne dis rien, ça va être étrangement silencieux pour une émission de radio.
C'est clair.
Non, non, c'est pas clair, c'est Maëva là. Claire, ça.
Voilà. Alors, autant il y en a, faudrait qu'elle parle, qu'il y en a d'autres, faudrait qu'ils parlent.
Mon Dieu.
C'était
elle
pour t'aider.
Nulle.
Merci, Maëva.
De rien. Au moins, ça détend l'atmosphère. Bah, moi, je vais parler de mon témoignage aussi, parce que le harcèlement, enfin, c'est aussi quelque chose que j'ai vécu. Et je t'entends dire, toi, David, que t'en avais pas forcément, enfin, t'en parlais pas forcément à tes parents, mais moi, j'en ai pas du tout parlé à mes parents. Donc, ça a été du harcèlement, que ce soit physique, autant que moral. Et ça s'est passé, en fait, aussi dans les années lycée, moi. En fait, j'ai fait une seconde générale et c'était une année de passerelle. Je me rendais compte que c'était pas du tout pour moi. C'était, en fait, pendant ce temps, je me cherchais, donc j'avais pas forcément la moyenne qui allait avec la scolarité. Donc j'ai vu comment on appelle ça.
Conseillère d'orientation.
Merci. Oh oui. Et j'avais rien donné pour le trouver, hein, pourtant. Ah oui, donc j'ai vu la conseillère d'orientation, machin. Donc finalement, je suis repartie en lycée pro, en première. J'ai pas dû redoubler. Donc lycée où je connaissais vraiment personne, je deviens interne, alors ça c'est quelque chose qui m'est complètement inconnu. Je pars donc de la maison, donc je perds totalement mes repères. Je me retrouve dans la chambre de deux filles que je connais pas du tout, mais elles sont meilleures amies, donc là déjà ça commence un peu à se tendre. Une des deux est dans ma classe, donc tout se passe plutôt bien au début d'année. Jusqu'au jour où je me lie d'amitié avec une fille qui la connaît. Enfin voilà, des broutilles vraiment de petites filles de lycée. Donc ouais, ça a terminé en violence physique, un peu d'harcèlement tout au long. Ça a été jusqu'à... En fait, le lendemain, c'est carrément mes copines qui ont été voir la CPE parce que moi, je m'étais... En fait, j'avais prévenu personne, mmh. personne. Et donc c'est mes copines qui vont voir la CPE et tout, et la CPE qui appelle mes parents, ma mère qui m'appelle, pourquoi tu m'as rien dit, ouais. Finalement moi je retourne en cours le lendemain comme si de rien n'était, la CPE qui vient me chercher et j'ai fini à l'infirmerie et chez les gendarmes quoi. Donc donc ça c'était en première. Puis en terminale juste après ce petit passage, il y a eu le confinement.
Ah oui, oui, oui.
Donc,
ah oui,
ouais. J'ai pas forcément vu ces fameuses filles, mais moi, pendant le confinement, il y a le fait que, elles pourront pas être punies tout de suite. Moi, j'ai pas pu forcément retourner au lycée, travailler sur moi-même, retourner sur les lieux, forcément là où ça s'est passé, retourner au lycée tout court, en fait. J'ai pas pu faire plus ou moins une guérison de ça en continuant à fréquenter le lycée, en me disant c'est bon, c'est passé, ça va aller, c'est pris en charge, machin. Donc il y a eu le confinement, donc on n'est pas retourné à l'école du tout, puisque ça s'est passé presque en fin d'année, quoi. Donc on n'est pas retourné à l'école, c'était à base de cours en distanciel. Je retourne en cours à la rentrée de terminale. J'avais pas du tout envie d'y retourner. Enfin, je peux pas dire que j'ai été victime d'une dépression pendant le Covid, mais enfin, j'étais pas bien. Enfin, j'étais pas au top de ma forme tout le long du confinement, quoi. Donc voilà, un peu d'appréhension pour retourner en cours en terminale. Finalement, ces filles sont passées en commission éducative. Il leur est rien arrivé parce que comme j'avais porté plainte avec mes parents, elles peuvent pas avoir de sanctions de par les gendarmes en plus de sanctions au lycée. Donc moi j'aurais quand même préféré qu'elles soient virées 2-3 semaines du lycée plutôt que ce qu'elles aient un rappel à la loi du côté des gendarmes.
C'est intéressant,
quoi.
Ce que tu dis là, c'est très très intéressant.
Parce que je me demande vraiment si ça leur a servi à quelque chose, un petit rappel à la loi, on te lit un texte, t'as compris, c'est facile de dire oui j'ai compris, voilà machin, que virer 3 semaines d'un lycée, ça n'a pas tout de suite la même importance, t'es viré du lycée, tu sais pourquoi, là rappel à la loi c'est trop facile. Enfin, de ma position de victime, on va dire. Enfin, j'aime pas dire ça parce que voilà, mais j'ai pas trouvé ça cool, quoi. Et ce qui a été vraiment super bizarre, et je sais pas pourquoi, c'est que en cours d'année de terminale, du coup, ces deux filles, elles se sont plus parlé. Et c'est vraiment celle qui m'a porté les coups, qui est le plus revenue vers moi, qui s'est excusée, machin. L'autre qui était dans ma classe, qui elle, c'était vraiment que morale. Elle n'entend plus parler, c'est bien comme ça, on va dire. Et on s'est retrouvés à l'IRTS ensemble, avec celle qui m'a porté les coups. Et cette jeune fille, je ne vais pas du tout citer son nom, et parce que je n'ai pas forcément envie. Et puis c'est passé, il y a 3 ans qui sont écoulés, et voilà. Et cette jeune fille-là venait de foyer, et elle a excusé son geste, elle a voulu excuser son geste en mode moi, c'est toujours comme ça que j'ai. Enfin, on m'a appris à réagir comme ça, donc c'est mon seul moyen de défense, en gros. Enfin, je dis moyen de défense, en aucun cas elle a été attaquée ou quoi que ce soit, mais c'est mon seul moyen de défense. Donc je me dis, si elle a toujours été appris comme ça et que personne n'a jamais rien dit, en gros, ce que j'ai guéri dans le sens où je me dis, je pardonne pas. Son geste est excusable, mais je pardonne pas, quoi.
C'est pas toi qui l'excuseras, en tout cas.
C'est pas moi, je l'excuse pas, mais d'une façon, je me suis fait une idée que, si elle a toujours vécu, si elle a toujours elle a toujours porté des coups, bah, c'est, enfin, on n'y peut rien. Si personne ne lui a jamais rien dit, enfin, je suis tombée là, voilà. Donc, je l'ai excusée. J'ai accepté ses excuses, mais je garde en moi le, enfin, tu m'as tapé, quoi. Donc, enfin, voilà. Et donc, plus, enfin, on n'est pas redevenu copine, mais en terminale, t'as 18 ans, t'es un minimum capable de prendre sur toi et de te tolérer. Surtout qu'on était encore à l'internat ensemble, on se croisait tous les jours. Donc voilà, et encore on se croisait l'année dernière, et il y a 2 ans à l'IRTS, donc, donc enfin, on n'allait pas se taper dessus non plus jusqu'à la fin de notre vie, quoi.
Ça me parle ce que tu dis là, parce que quand j'ai réalisé plus grand, parce que je connaissais l'environnement dans lequel se trouvaient les gens, moi, qui me coursaient pour me taper. Et c'est ce truc aussi de, moi, je me souviens très bien des couloirs bondés et des classes qui se croisent, et c'est des coups qui sont donnés à ce moment-là.
Ouais.
C'est-à-dire dans une cohue où personne ne le voit. Ça passe complètement inaperçu. Et on peut se retrouver quand même plié en deux dans un coin de couloir, et personne ne comprend pourquoi, parce que le geste est artistique, entre guillemets, hein, c'est de la dentelle. Hein, le truc passe totalement inaperçu, et pourtant, il est bien violent. Et quand j'ai compris, en grandissant, avec ça, parce que je connais le quartier, parce que je connais les familles, je vois un peu, et j'ai compris dans quel contexte ils étaient. Moi, je sais que autour de 20 ans, j'ai commencé à me dire, et c'est une des choses d'ailleurs qui m'ont poussé vers le métier que je fais aujourd'hui, parmi d'autres, en fait, ils ont quand même eu une éducation et une vie qui a priori était un peu plus moche que la mienne. C'est rigolo.
Ouais,
comme...
bah c'est un peu ce moi, que j'ai je vraiment me suis dit, en fait.
Ce qui n'excusait rien, effectivement, mais je me suis dit, ouah, ça serait bien qu'à un moment, ça aurait été chouette qu'à un moment, ils aient rencontré une personne, un lieu, une structure, quelque chose qui leur montre autre chose et qui leur apprenne un petit peu autre chose et justement un autre mode de, ouais, d'interaction avec le monde autour d'eux, quoi.
Et avec le recul, je me dis que j'ai quand même été bête parce que, enfin, ça s'est passé à l'internat, en fait. On m'a coincé dans une chambre d'internat, en gros, et il y a la surveillante qui fait l'appel, qui passe, et elle me voit bien que je suis un peu dans la mouise, et parce qu'on était 4 dans la pièce. Et elle me dit « Ça va, Maëva ?» Je fais « Ouais, ouais », parce que je savais en fait que si je disais que ça n'allait pas, moi, ça n'allait pas se terminer, en fait, le lendemain, voilà. Et c'est le lendemain, bah, le soir même, j'ai changé de chambre, en fait, parce que j'ai toujours rien dit à personne, juste à mes copines. Et je change de chambre, qui est la chambre juste à côté, pour la nuit, donc je prends mes affaires. Enfin, déjà, quand je retourne dans ma chambre, elles avaient foutu toutes mes affaires à la poubelle et tout. Enfin, vraiment, c'est gros, gros, gros truc. Donc voilà, je ne dis rien, je change mes affaires, je change de chambre. Le lendemain, je vais voir la CPE pour juste donner une lettre pour changer de chambre. Mais ça, la lettre-là, c'était déjà pour avant, parce que ça n'allait déjà pas trop... Donc moi je vais chez la CPE, je donne ma lettre pour changer de chambre et je me casse. Parce que mes copines elles font « Maëva, t'as rien d'autre à dire à la CPE ?» Je fais « Non, je pars ouais. » et mes copines restent dans le bureau et moi je vais en cours, je vais dans la salle, je m'installe, tout. Mes copines elles arrivent, elles s'assient à côté de moi, tout, on se parle pas. Jusqu'à ce que, il y avait encore au lycée le système de téléphone, donc c'est la vie scolaire qui appelle le prof. J'étais en cours d'histoire d'ailleurs, j'ai jamais pu faire un contrôle de l'année parce que j'étais toujours absente. J'ai jamais fait de contrôle du coup. Et donc c'est le prof d'histoire qui me dit « Maëva, faut que tu descendes, il y a la CPE, machin. » Donc ouais, voilà. Je regrette de ne pas avoir dit à cette surveillante « Si là, je suis dans la mouise, aide-moi, ça ne va pas. »
C'est intéressant qu'on ait comme ça justement des témoignages un peu bruts, un petit peu frontaux. Alors c'est pareil, comme toujours, je regarde l'heure qui passe, qui nous maltraite, l'horloge qui nous harcèle comme ça là, à chaque émission.
Non mais c'est touchant. C'est pour ça, moi, tu vois, là, elle a obtenu mon silence, ce qui est difficile. Non, parce que j'en ai parlé un peu la semaine dernière et moi, ce qui m'a touché chez toi, David, et après je développe pas parce qu'il reste qu'une minute. Attention, on est filmé, David. Non, je ne crois pas d'ailleurs aujourd'hui. Mais quand tu as dit le passage du CM2, de la primaire au collège, moi c'est ce que j'ai vécu. L'enfer pour moi a commencé au collège, à l'époque où les violences étaient très physiques énormément. Et ça me fait méditer d'ailleurs sur comment c'était possible que ça ait lieu comme ça à l'enceinte du collège que tu connais d'ailleurs. Mais ça me fait penser à ce que tu as dit là, c'est cette transition. Et comment le collège peut devenir Sa Majesté des Mouches de William Goldwyn, quoi. C'est-à-dire les rapports entre les enfants de violence, de pouvoir, de domination et de cruauté. Relisez ce livre, chers auditeurs, il est très très beau ce livre. Il explique bien comme ça, tout d'un coup, les rapports. Des fois, les enfants sont pas tendres entre eux. Mais on développera un autre moment parce que ça va se terminer.
Mais ce serait bien qu'on prolonge ça, effectivement, sur qu'est-ce qu'on en a retiré de tout ça, finalement, et qu'est-ce qu'on en a fait dans
Mais moi, je
veux
pas prolonger après ce qu'a dit Maëva, parce que je pense que, voilà, on a besoin de méditer aussi après ce qu'elle vient de dire. Voilà.
Eh bien, méditons.
Je me permets juste, il y a un site sur lequel on peut aller chercher pas mal d'infos et des liens qui s'appelle jeprotègemonenfant.gouv. S'il y a des parents dont les enfants sont harcelés ou ont des questions, vous pouvez aller sur ce site, il y a pas mal d'infos.
Bah on fera une émission sur le sujet, puis on redonnera toutes les, tout ce genre de références, c'est important.
Et on prévoira Claire, comme ça on l'aura prévu, elle sera là quand on la prévoit.
Je ne sais pas de quoi tu parles.
Merci à Jean-Luc, merci à toutes et à tous. Je n'ai pas donné, j'ai pas eu le temps, l'adresse pour aller sur la collecte de notre Téléthon, mais c'est pas grave, vous allez sur Facebook Chamallow Saltimbanque, le plus récent des deux Facebook, et vous avez tout le QR code pour aller sur notre organisation Téléthon. Merci à tous, merci à Jean-Luc, merci à David, merci à Claire, merci à Maëva. On se retrouve la semaine prochaine pour Vie Associative.